Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, on est ensemble jusqu'à midi. Faites attention, prenez vos précautions évidemment avec la canicule. Hein, on vous l'a rappelé il y a quelques instants dans le journal de 10h. Évidemment, on fait pas n'importe quoi, on va pas courir ou rouler à midi en plein soleil, sans eau, sans rien et puis sans préparation surtout. C'est ça qui est important. Jérôme Pinault est là, Pascal Duprat aussi, Sarah Pilkowski également. Tiens, tout à l'heure d'ailleurs dans le vestiaire, on va se demander comment est-ce qu'on gère la chaleur d'ailleurs dans le sport de haut niveau. Vous étiez sensible à la chaleur, Sarah ?
Sensible, mais je la supportais.
Tu l'as supportée ?
Ouais, ouais. Franchement, je la supportais plutôt pas mal.
Pascal ?
Difficile. Difficile pour moi.
Ah ouais, non, on n'est pas tous égaux face à ça, hein, Jérôme ?
Ouais, j'adorais.
Bon, mais lui, voilà, c'est...
Mais lui, tu me demandes, je te dis.
Non, mais toi, il fait froid, tu gères, mais en fait, tu gères tout.
Non, il fait froid, je gère rien du tout.
Vous avez pas parlé de Yannick, parce que ce serait bien qu'on l'appelle.
Yannick Noir ?
Non, Sinner.
Yannick Sinner, Yannick Sinner, ouais, la chaleur, c'est pas son meilleur pote. Ouais.
On pourra en parler dans le... Ça se travaille, hein. Tim Wellens hier, qui lui d'habitude, avant d'arriver chez UAE, le Belge détestait la chaleur. Ouais, et ben, ils ont fait des protocoles chaleur et aujourd'hui, hier par exemple, il fait 4e du contre-la-montre, il fait 35 degrés.
Et il paraît que Sinner a fait beaucoup d'analyses et de tests marché, là. Non, après Roland Garros, c'est avant Wimbledon.
Bah, il fait beaucoup de tests, ouais.
D'accord. Donc tu penses que Yannick Sinner, pour s'habituer, là il est chez lui, il n'a pas fermé les volets et les fenêtres.
Non, à Wimbledon, a priori, canicule, ça arrive pas souvent.
Il fait très chaud à Londres.
Ah ouais, en Angleterre, quand il fait chaud, c'est pas agréable du tout. Les gens qui... Moi, je connais un peu l'Angleterre, tu vois. Insupportable. J'ai jamais vécu un été là-bas. Ah si, au Jeu de Londres en 2012. Ah, il faisait très chaud. Très, très chaud.
Départ du Tour à Londres, il faisait très chaud aussi.
Dans un instant, les GG remontent le temps. Il y a 40 ans, France-Brésil, 86, jour pour jour, hein, à Guadalajara, avec le tir au but de Luis Fernandez. Allez, mon petit bonhomme. Un match peut-il changer la destinée d'une équipe et d'une nation? Vous venez nous raconter vos souvenirs au 32-16 et on aura quelqu'un avec nous qui était à l'Estadio Jalisco, qui commentait cette rencontre. C'est Captain Larquet qui va venir nous raconter un petit peu comment ça s'est passé de l'intérieur. Je sais que Pascal était devant sa télé, Jérôme aussi, et que Sarah n'en avait rien à faire. En fin d'émission.
Bon, non, mais j'étais trop jeune, c'est pas cool. Mais heureusement qu'il y a YouTube, hein, sinon je.
Ah, bah alors ça, pour le coup, d'ailleurs, bon, on en parlera
top,
tout à l'heure.
Hein.
En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG, remportez votre enceinte portable Mino X de Lexon, qui a la particularité d'être Bluetooth et en plus flottable, pour la remporter après le 32-16 touche 4. Ou envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Vous retrouvez la première heure des grandes gueules du sport, déjà disponible en podcast, hein, pour écouter notamment notre débat sur Ousmane Dembélé, est-il en danger. Mais d'abord sur le ring, le top 14. On connaît l'affiche de la finale samedi au Stade de France, donc Toulouse, en quête d'un 4e bouclé consécutif face à Montpellier, vainqueur hier soir du Stade français 25-15. Vous l'avez vécu sur RMC.
RMC, le ring des GG.
C'est bien joué, ce que va aller l'Australien. Ouais, magnifique essai de la part des Montpellierains. Hein. Oh. Magnifique initiative de la part de Domingo Miotti, Denis, oui. Avec cette stratégie très claire. Johan Tanga qui est passé.
Et
la réponse immédiate de la part du Stade français. Avec Kerr Barlow sur un magnifique lancement, hein, de la part du Stade français. Et là, le coup pied dans le dos, bien joué pour Dakouvaka qui va aller marquer.
Et oui,
le deuxième essai du Stade français, les Parisiens qui ont attaqué deux fois. Montpellier va aller disputer la 4e finale de son histoire au Stade de France. 15 ans après la première, le grand Stade toulousain attend Montpellier la semaine prochaine pour sacrer le champion de France de cette saison.
Julien Landry, Denis Charvet au commentaire hier au Vélodrome, 4 ans après son unique bouclier de Brennus, donc Montpellier de retour en finale du top 14, à l'issue de cette rencontre qui aura été très physique, hein, on s'y attendait, face au Stade français. Ils différent donc samedi le Stade toulousain, impressionnant vainqueur, on en a parlé hier du Racing 92 avec un Dupont retrouvé, 71-17, et donc une équipe en quête d'un 4e titre consécutif comme leurs aînés dans les années 90. Les GG, je vous pose cette question, est-ce que Montpellier est un adversaire à la hauteur de Toulouse? Tiens, on va faire un petit tour de table. Pascal?
Oui.
Sarah?
Je vais dire non, j'ai pas beaucoup d'arguments, mais je vais dire non.
Mais j'aime bien l'honnêteté, moi. J'en ai là pour la transparence, hein. Jérôme?
Vas-y, oui. Jérôme.
Oui. Il dit oui. Eh bien, Sarah, tu n'as pas beaucoup d'arguments, tu dis. Mais sur le compte X des Grandes Gueules du Sport, vous dites non à 62%. Pour vous, Montpellier n'est pas un adversaire à la hauteur.
Mais il y a les Toulousains qui ont voté quand on connaît leur certitude sur le rugby et l'Ovalie.
Peut-être des Montpellierains qui ont voté aussi, qui ne croient pas forcément. Hein. Tu peux faire ça par superstition parfois. On n'y croit pas trop. Vous l'avez écouté, Julien Landry a commenté le match au Vélodrome pour RMC. Il est avec nous. Salut Julien.
Salut les GG.
Salut Julien.
Salut.
Julien qui a la particularité importante sans souvenir d'être également le correspondant à Montpellier.
Sinon, il n'aura plus le droit de rentrer en salle de presse.
Julien, en toute objectivité, comment les Montpellierains se projettent sur cette finale face à l'ogre toulousain?
Le MHR a rapidement basculé sur sa quatrième finale. Et la deuxième contre Toulouse, comme en 2011, Johan Codulo, le manager, c'est le défi qui attend son équipe.
On va jouer, je n'ai pas honte de le dire, mais contre une des meilleures équipes du monde. Donc il faut être très clair, et ce n'est pas de la fine bouche. Mais après, on va les affronter. Et s'ils ne sont pas à 100%, on essaiera de faire quelque chose. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas être plus clair que ça, mais en tout cas, on va s'entraîner pour gagner un match de rugby. Quand ils sont pas à 100%, on est capable de gagner ces équipes-là. Quand ils sont à 100%, on l'a vu hier, c'est compliqué. Voilà. Donc, on sait que si nous, on n'est pas à 100%, ça peut être très compliqué. Voilà. Donc, on va faire en sorte cette semaine de se préparer pour être à 100%. Et si l'équipe de Toulouse est meilleure que nous, on ne gagnera pas ce match. Mais en tout cas, on va se préparer pour l'emporter.
La démonstration de vendredi soir, vous l'avez entendu, du stade toulousain et ses 10 essais a marqué les joueurs. Et Baptiste Ardossio, le pilier du MHR, ne veut pas être ridicule samedi prochain.
T'as pas envie d'en prendre 60, donc surtout sur une finale. Si tu joues le stade toulousain, t'as un peu peur, mais c'est surtout beaucoup de respect pour eux. C'est une très très grande équipe. On l'a vu sur la demi-finale, on l'a vu tout au long des saisons, ils enchaînent les performances. Donc on va y aller avec surtout énormément de respect et avec une envie de se jauger au meilleur. Et voilà, ça nous tarde déjà la semaine prochaine.
Mais le MHR aura des arguments à opposer, sa puissance en mêlée, son amour du combat, sa qualité défensive. Pas question donc de faire un complexe pour le deuxième ligne, Florian Vérac, formé à Toulouse.
Ça a une saveur particulière, ça rajoute peut-être une petite pression supplémentaire, parce qu'on sait que c'est quand même une équipe qui pardonne pas les erreurs. Donc voilà, mais après ouais, moi je suis content que ce soit qu'on joue en finale. Là, c'est premier comme deuxième du championnat. Il n'y a pas de complexe à avoir. Et voilà, on a chacun notre style de jeu. Ça va s'opposer. Et on verra à la fin qui gagne. Quoi.
Montpellier voudra retrouver son bouclier gagné en 2022 avant le triplé de Toulouse qui reste sur 11 finales consécutives remportées.
C'est bien la stat à la fin pour bien dégoûter tout le monde. Merci Julien. Non, mais c'est important ce qu'on a entendu, le pas de complexe, mais en même temps il faut être à 100%. Avant d'accueillir une GG en guest star, Sarah, puisque tu es la seule à défendre le nom, tes arguments.
Mes arguments, on vient de les entendre dans les sons, c'est-à-dire que Montpellier, en tout cas les joueurs de Montpellier, sont bien conscients que si eux ne sont pas à 100%, ils le disent, ils veulent pas prendre beaucoup d'essais. Donc ce qui me dit que Montpellier part forcément est loin d'être le favori, c'est qu'en fait c'est qu'en face t'as des joueurs qui sont capables de faire basculer le match par leur génie en fait. Et donc même si dans les 20 premières minutes c'est un match qui est équilibré, qui est serré, parce que on vient de le dire, Montpellier ils sont dans le combat, dans les duels, dans les rucks, mais en fait le génie de mecs comme Dupont, Ntamack ou Ramos
qui ne fera pas jouer la finale,
Ramos jouera pas. En fait tu te dis que ces mecs là c'est des game changers et que en l'espace de quelques minutes, ils sont capables, avec du génie, de t'enfoncer un club.
T'as été impacté par le match de vendredi soir aussi, je pense.
Ouais, effectivement, puisqu'on en a parlé.
Il agit en trompe-l'œil, ce match-là.
Pourquoi qu'il est trompe-l'œil?
On va poser la question à Cédric Emmons, qui nous rejoint, notre grande gueule rugby, qui est avec nous en direct.
On s'inquiétait de Toulouse s'il n'était pas.
Salut Cédric.
S'ils allaient retrouver leur niveau.
Bonjour à tous.
Ça va
salut
ou quoi
Cédric. Salut Cédric.
Cédric qui était au Vélodrome, hein, voilà, qui revient de Marseille, qui n'est pas au volant, je précise. C'est important de le rappeler.
Non, exactement.
Sur une planche à voile.
Sur une planche à voile. Mais oui, bien sûr, il est toujours dans l'inspiration.
Non, il rentre en Corrèze.
Non, mais Cédric, on voulait t'avoir pour avoir ton avis, t'assister aux deux matchs en plus. Est-ce que tu penses que Montpellier est un adversaire à la hauteur de Toulouse, de ce que tu as vu?
Oui, parce que c'est la seule équipe dans le championnat qui est capable de priver les Toulousains de ballon, que ce soit en mêlée ou en touche. Ils ont une faculté à ralentir le jeu de leur équipe adverse. Et là, la démonstration de hier soir, elle a été flagrante face au Stade français. Ils ont dominé le combat, la guerre du milieu de terrain. Ils ont été capables, même en faisant des rotations, hein, parce que j'ai été impressionné par la deuxième première ligne qui est rentrée, Oukpatin, Forletta, Tolofoa. Ils ont fait un boulot monstrueux et ils ont privé le Stade français de ballon qui avait des armes offensives. Après, forcément, les game changers de Toulouse peuvent influencer la rencontre, mais s'ils n'ont pas de ballon, ben, ils ne pourront pas influencer cette rencontre.
Tu penses que ça peut être, en fait, Montpellier, ça peut être l'antidote de Toulouse.
Oui, je pense. Après, c'est quelle Toulouse on aura. Si on se fie sur la première demi-finale, avec tout le respect que j'ai c'était Toulouse. Le Racing, pardon. Toulouse Racing, ça a été surtout un non-match de la part du Racing.
Donc, ouais. Ils ont manqué leur match.
Puis Toulouse, quand il joue en avançant, joue debout avec Dupont, que tout le monde pensait à la cave, qui a régalé tout le monde, un Tamac qui a pris le jeu à son compte. On n'a pas vu énormément le manque de présence de Ramos. Donc voilà. Et puis la finale, c'est un match à part. Il va y avoir une pression. Le Stade toulousain est obligé de gagner cette finale pour exister. Ce club se nourrit que de titres. Ils ne peuvent pas passer une saison sans titre.
Évidemment,
ils ont une telle expérience en finale. Même quand ça ne se déroule pas parfaitement. Enfin, on vient de le dire, on se finale, on se titre. Donc en fait,
toi t'y crois pas trop en fait pendant
ça. J'y crois pas trop. C'est-à-dire qu'il faudrait un match.
Vas-y, Cédric.
Ouais, j'étais de la finale en 2011 face à Montpellier. On arrive hyper favori et je crois qu'on gagne 15-12, un score hyper serré parce que Montpellier nous fait déjouer. On est pris dans le combat de devant et on arrive à s'en sortir par un exploit. Et cette équipe de Montpellier a cette faculté,
je pense.
Et c'est le point changer du championnat. Oui, il aurait pu y avoir Bordeaux, mais Bordeaux est sorti en quart de finale.
Pascal, on t'a pas entendu. Toi, tu penses que Montpellier, un peu comme le dit Cédric, peut embêter ce Toulouse?
Oui, bien sûr. Mais encore une fois, je peux pas donner ma faveur. Et voilà, il est certain que le Stade toulousain m'enchante et m'enchantera toujours, comme tous les puristes et les amateurs de rugby. Cela dit, moi je prends les déclats juste après le match d'Hugo Mola. Il dit attention, on a rien gagné. En fait, il fait la méthode Coué. Bah, il est à bonne école. Il était avec Noves, qui était son manager. Ouais. Mais comme Cédric, mais depuis le début de la saison, attention, quand Toulouse a reculé, c'est arrivé quelques fois, ils ont déjoué, ils sont passés à travers, ils ont pris quelques défaites inattendues. Et Montpellier est, à mon avis, l'équipe la plus disposée à ennuyer le Stade toulousain. Donc, c'est pour ça que je disais, attention, la demi-finale, bon, ils ont marqué 71 points, il faut les mettre, mais en fait, le Racing a complètement manqué cette demi-finale. Alors, certainement parce que
ils vont pas mettre 70 points à Montpellier, en fait. Oui. Ça n'a rien à voir.
Souhaiter. Je pense que
ils sont tellement forts. Montpellier, c'est les meilleurs du top 14 devant. Ils sont forts, mais incroyablement forts. Ils sont forts défensivement. Et ça peut être les ingrédients pourraient causer des problèmes
au Toulouse. On parle d'une finale aussi. Une finale, elle n'est jamais gagnée d'avance. C'est l'état d'esprit pour une finale. C'est pas du tout la même chose qu'un match de saison. C'est pas du tout la même chose qu'un Montpellier-Toulouse de pendant la saison régulière du top 14. La finale, elle fait. Alors évidemment, les grandes équipes souvent brillent en finale, mais elles peuvent aussi se louper. C'est aussi un super challenger parce que dans le type de jeu, si vous posez la question pour m'être renseigné autour de moi, c'est l'équipe qui en merde, si je peux exprimer cette expression.
Pas,
Toulouse, Toulouse aime avoir le ballon. Toulouse aime et Montpellier est une équipe difficile à jouer. Et en plus de cela, dans une finale, Pascal, tu le sais aussi, lorsque tu arrives et que tu es presque attendu comme te faire marcher dessus, presque comme un sparring partner.
Oui, ça te galvanise.
Ça te galvanise.
La fierté.
En fait, la fierté de pouvoir tenir tête, parce qu'au départ, je pense que la mission pour Montpellier sera de tenir tête et de ne pas se faire écraser, eh bien, elle peut vite basculer vers et si on y arrivait. Tiens. Et ça, moi, je pense que Montpellier a le profil pour faire durer cette finale et mettre du suspense. C'est ce qu'on espère pour le top 14.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écouter aussi les supporters. Ouais, Julien.
Oui. Non, juste pour être dans le sens de Pascal, cette saison, Montpellier a reçu Toulouse au début de la saison avec la grande équipe quasiment de Toulouse. Oui. Et les Montpelliérains avaient étrié le Stade Toulousain en leur en mettant 44-14, victoire montpelliéraine. Mmh. Et ils s'étaient accrochés au match retour. Et c'est d'ailleurs Toulouse, c'est la dernière équipe à avoir battu Montpellier, qui reste donc sur 10 victoires consécutives. Mais ils avaient fait tourner les Montpelliérains et ils avaient accroché le Stade pendant pas loin d'une heure.
Mmh. Ouais, donc, mais c'est pour ça qu'il faut
embêter les Toulousains.
Cédric, tu voulais rajouter quelque chose sur ça?
Oui, une finale, c'est un match à part. Il faut pas se fier au premier match de championnat. On l'a dit tous, c'est l'équipe qui peut contrer le mieux le Stade Toulousain. Et puis le Stade Toulousain arrive en finale avec une forme de pression. Il y a eu les affaires extra sportives. Ils sont obligés de gagner. Est-ce que ça va amener un supplément de pression sur cette équipe de Toulouse? Je sais pas, mais en tous les cas, je le redis, ils sont dans l'obligation de gagner. Et Montpellier, quand t'es devant ta télé le vendredi soir et que tu vois le Stade Toulousain dérouler, tu te dis, je veux pas vivre ça. Donc il peut y avoir aussi un supplément d'âme de la part des Montpelliérains pour pas être, allez, j'ai envie de dire ridicule en finale. Mais un Stade Toulousain privé de ballon, c'est pas le même Stade Toulousain. Jérôme l'a bien dit quand t'es, et Pascal aussi, quand t'as pas de ballon pour t'exprimer, c'est compliqué.
Ah mais Jérôme l'a bien dit parce que tu sais que maintenant il est le midi olympique tous les jours, c'est devenu un vrai spécialiste.
Hein, j'ai des amis dans le
Stade Toulousain. Ah oui, mais il m'a demandé de le pistonner pour avoir un article.
Pas de moquerie les copains. J'ai des copains un peu.
Il m'a pistonné Jérôme. Il m'a demandé qu'il ait un article dans le Midol pour parler.
Exactement. On a déjà eu Fred Weiss qui était dans les pages jaunes du Midi Olympique. Donc tout est possible.
Tiens, je voudrais qu'on écoute des supporters. Franck, supporter toulousain, qui nous appelle au 32-16 depuis le Tarn-et-Garonne. Salut Franck.
Oui, bonjour à tous.
Bon, Franck, on dit souvent que les supporters toulousains sont ultra confiants. Est-ce que tu es ultra confiant avant cette finale ou tu fais attention?
Non, justement, là, vous m'avez fait bondir, Jérôme, là, quand il a dit, ouais, les 72% au sondage, là, c'est les Toulousains qui sont sûrs de leur rugby, machin, tout ça. Non, on n'est pas confiant. Montpellier, en plus, alors, Julien Landry a dit tout ce que j'avais à dire, donc c'est dégoûté. Donc, on voit que vous êtes quand même des sportifs, des experts et des journalistes qui font un sacré boulot. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est effectivement, on a fait 40 points à Montpellier avec une équipe qui tenait la route de notre côté. Et quand on a reçu Montpellier, ils avaient fait tourner et ça avait été, je ne suis même pas sûr qu'on prenait le bonus, si on le prend, c'est à l'arrache. Créer votre équipe, c'est le nombre de fois qu'il a dit Montpellier, c'est l'antidote, il me semble. Et oui, Montpellier, c'est l'antidote au Stade de Toulousain, ça sera l'antidote, pour mon fils avec le Stade français. Un gros paquet d'avant, c'est pour en conquête.
Prudence, effectivement, prudence, tu dis, Franck. Je suis désolé, je te coupe parce qu'on t'entend pas très bien. Respect,
c'est sûr, effectivement. Mais vous n'allez pas me dire que entre vous là, alors c'est de la com, on dit non, on n'est pas ultra favori, mais dans les bars à tapas autour de la place du Capitole,
oui, mais attention,
on va les écraser, on va les marcher dessus.
Ils ont le droit,
arrêtez d'un peu de donner des étiquettes comme ça à tout le monde. On peut gagner en humilité.
Ça, c'est les supporters et c'est normal.
C'est-à-dire que là, depuis le début, on essaie de trouver des arguments pour dire que Montpellier peut être à la hauteur de Toulouse. En fait, moi, ce que j'avançais comme argument, c'est que le génie des joueurs de Toulouse, j'ai quand même le sentiment qu'ils font la différence à la fin. Moi, je me souviens d'une finale.
Si tu tombes contre une équipe qui te fait reculer,
si t'as pas de ballon, si jamais tu les prives de possibilité de s'exprimer.
Oui, d'accord, mais attention. Ok, mais alors il faut les priver pendant 80 minutes.
Sarah,
il faut les priver pendant 80 minutes. Vous vous souvenez de la... C'était quoi? C'était Toulouse La Rochelle, où Ntamack marque à la dernière minute, c'est en 2023.
Oui, Toulouse, La Rochelle,
cette finale, mais ultra serrée. Et je me souviens de cette image où, en fait, t'as quand même l'impression que Toulouse a une... C'est pas une telle confiance, mais il y a une telle sérénité, il y a une telle expérience à ce niveau-là.
Que dans le moment difficile, c'est ça qui va faire la différence.
Dans le moment difficile, ils sont capables de faire la différence. Donc, priver le ballon, très bien, 20 minutes. Mais 80 minutes.
En bossant sur le sujet, bah, j'ai appelé les experts. Donc voilà, donc Cédric, c'est un expert. Et puis il y a un autre expert qui était avec Julien hier à Montpellier, m'a envoyé des photos. Donc bah, je lui ai posé des questions à cet expert-là. Et en plus, il se trouve que c'est mon idole. Donc il m'a dit c'est possible. Et pourtant, Dieu sait s'il y en a un qui aime le Stade Toulousain, c'est celui-ci. J'ai parlé de Denis Charvet. Voilà. Donc Denis, il me dit c'est l'équipe qui peut contrarier au maximum le parce que déjà d'une part Montpellier c'est le second du championnat.
Oui.
Il faut ne pas l'oublier. Et en plus, physiquement, ils ont eu le temps de... Bah, même les Toulousains, bien entendu, mais ils sont logés à la même enseigne que les Toulousains. Ils ont eu le temps de se... régénérer. Ils ont eu le temps de récupérer.
Ils n'ont pas fait de barrage. Ils n'ont pas fait de barrage.
Oui, ils n'ont pas fait de barrage.
Oui, donc, final, c'est le premier et le deuxième, hein, les barrages.
Premier et deuxième.
C'est ce qu'on disait hier, hein, que ces barrages étaient un vrai problème pour les équipes comme le Stade Français hier
et
le Racing avant-hier.
Montpellier, qui, je vous rappelle, a déjà soulevé un trophée cette année, le Challenge européen, la Challenge Cup. Évidemment, donc ils arrivent sur cette finale à vivre samedi prochain, Montpellier Stade Toulousain. Merci Julien Landry d'avoir été avec nous depuis Marseille et merci à Cédric Emmons qu'on retrouvera très vite en studio avec nous après s'être reposé quelques jours en Corrèze.
Là en Corrèze, là j'ai connu des journées de quand il fait chaud en Corrèze. Attention, ça cogne. La route, elle colle là-bas.
Ça chauffe.
Ça chauffe. Allez, résultat du sondage. Montpellier est-il un adversaire à la hauteur de Toulouse? Vous dites non à 63%. Ça a même augmenté sur le compte XD Grande Gueule du Sport. Bravo,
bravo Sarah.
Bravo,
voilà.
Sarah. Je ne suis jamais douté, moi. Allez, dans un instant, on va remonter le temps, les amis. On va remonter dans la DeLorean pour revenir il y a 40 ans, 86. La France battait le Brésil à la Coupe du Monde au tir au but. Un match pour l'histoire. On sort avec Jean-Michel Larquet. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
On est avec Pascal Duprat, Sarah Pitkowski, Jérôme Pinault. Dans un instant, j'y crois pas. On va parler tennis. Wimbledon, c'est dans une semaine. C'est dans une semaine, dans une semaine.
Dans une semaine. Pas, quoi. Oui.
Ça, c'est la Coupe du Monde. On dort pas bien, donc la chaleur. Je m'accroche à ce que je peux pour bien me corriger. Mais d'abord, les amis, il y a 40 ans, jour pour jour, vous savez qu'on aime bien justement être dans la transmission des histoires du sport français. Il y a 40 ans, jour pour jour, 21 juin 1986, Estadio Jalisco de Guadalajara, grand soleil pour un match mythique, quart de finale de la Coupe du Monde. La France de Platini, de Gires, face au Brésil de Socrates, Zico, Carica, le Brésilien ouvre le score à la 17e. Platini égalise à la 40e. Batz repousse un pénalty de Zico dans le temps réglementaire. Grand spectacle, prolongation et tir au but. Luis Fernandez, 26 ans, à la balle de la victoire. Thierry Roland et Jean-Michel Larquet au commentaire.
Luis Fernandez, qui a donné le titre au PSG cette année et qui a la qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Ah, je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Allez Louis.
Allez mon petit bonhomme.
Oui,
mon petit bonhomme, bravo. Bravo.
En demi-finale, c'est le drame devant nous. Devant nous, ils sont atterrés. Ils se sont levés souvent. Nous nous levons que pour une fois, mais c'est la bonne. Nous nous levons une fois, mais c'est la bonne. Une fois, on se lève, messieurs les Brésiliens. Car les journalistes brésiliens, tout au long de la retransmission, nous ont fait une démonstration. Et oui, messieurs, il faut se lever à la fin de la bataille. Et c'est nous, les Français, qui sommes debout.
Et oui.
Les Français debout face aux Brésiliens. Vous l'avez écouté, il était à l'Estadio Jalisco. Capitaine Jean-Michel Larquet est avec nous. Salut Jean-Michel.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Salut Jean-Michel.
C'est une séquence que je veux de témoignage aussi. Et avec vos souvenirs au 32-16, tiens, j'ai déjà des messages sur WhatsApp. Robert qui me dit, il y a 40 ans, je me rappelle très bien de ce commentaire. J'ai descendu le boulevard Saint-Germain à Saint-Michel dans ma vieille Citroën, 14 litres au 100 km, me dit-il, c'est précis. Avec un copain en klaxonnant, joie dans la rue. C'était incroyable, les années bénies. Jean-Michel, avant de t'écouter, justement, Pascal Duprat, je sais que tu étais devant ta télé ce jour-là. Et on en a parlé en préparant cette émission. Tu m'as refait le match. seconde par seconde. Ouais. C'est le match d'une génération, France-Brésil 86.
Ah ouais, ouais, ouais. Ben, la France venait d'être championne d'Europe, donc la France avait brisé le plafond de verre, parce qu'avant cela, on avait l'impression que la France n'était jamais invitée, ou pas souvent. Et ce match, je m'en souviens, mais je me souviens de tout. Les premières images, je crois que les commentaires de Jean-Michel Larquet et Thierry Roland allaient dans ce sens, il n'y avait que du jaune dans les tribunes. Il y avait, on joue bien sûr à l'extérieur, mais surtout les Brésiliens sont à domicile. Puis le début de match en faveur des Brésiliens, ce but de Careca sur une action d'école, j'ai dit on va prendre une trempe. J'étais avec mon père, ouais. On regardait le match, on était comme des fous. Et puis la France a repris du poil de la bête. Platini, malgré ses tendons d'Achille douloureux, égalise sur une Stopira failli marquer sur ce centre de Rocheteau de la tête.
Mais oui, non,
je me souviens de tout. Le penalty de tout.
Est-ce qu'avec la VAR aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de Stopira?
Surtout de l'épilogue. Je me souviens de l'épilogue. Franchement, quand Luis... Parce qu'il faut se remettre dans le contexte, le poids de la responsabilité pour Luis Fernandez est incroyable. Et quand il marque le pénalty, ben voilà.
Jean-Michel
a tout dit. Jean-Michel a tout résumé. Il va en parler mieux que moi, il y était.
Jean-Michel, tu sais, c'est important dans cette émission qu'on fasse ça aussi, parce que ben, voilà, moi je ne l'ai pas vécu, ce match, je suis né en 88, mais ben, j'ai fait l'effort dans ma jeunesse d'aller voir les matchs de l'équipe de France qui ont marqué. C'est lui 82, celui-là, et franchement, je le dis aux plus jeunes, regardez, c'est facilement regardable sur YouTube par exemple. Regardez, c'est un match encore aujourd'hui fabuleux, France-Brésil, ouais, 86, vraiment. Jean-Michel, t'étais dans cet Estadio Jalisco, t'as réécouté vos commentaires. Déjà, 40 ans après, jour pour jour, ça fait toujours quelque chose de se replonger dans cette journée-là.
Alors, il y a deux retransmissions qui font débat dans la télé française. L'un, c'était où j'étais acteur, c'est contre Split et ce match-là. Je vous explique pourquoi. Parce que contre Split, tout le monde considère qu'ils ont vu le match retour Saint-Etienne avec Doug Split qui n'a jamais été télévisé. Et donc tout le monde considère qu'il l'a vu. Et alors, ils ont vu les extraits dans les journaux télévisés, mais tout le monde, bon, alors que le match n'a jamais été télévisé. Et ce match-là, tout le monde parle de nos commentaires alors que nous n'étions pas en direct et que c'est un match qui avait été rediffusé par TF1, car on se partageait les retransmissions, et c'est Antenne 2 qui avait fait le direct. Mais malgré tout, ce match-là, tout le monde considère qu'ils ont entendu les commentaires de Thierry et de moi-même en direct. Voilà, il y a des mystères comme ça dans la vie.
On peut les avoir, réécoutés. T'es bien d'accord avec moi, Jean-Michel?
Oui, non, mais le monsieur qui a descendu le boulevard Saint-Germain avec sa voiture à 14 litres au 100, il est persuadé qu'il a entendu nos commentaires.
Parce qu'il y a Michel Drucker aussi, qui était sur France Télévisions, je crois, pour ce match.
Et donc, ça a été la dernière Coupe du Monde, parce qu'il... À la fin de la Coupe du Monde, il a dit plus jamais, je suis complètement déconnecté du football et plus jamais ça. Et ce match-là, effectivement, on l'a commenté pour qu'il soit rediffusé quelques heures plus tard par TF1. Je confirme ce que disait Pascal, tout était jaune, il faisait une chaleur épouvantable. Nous étions arrivés très tôt avec le commandant Ramirez, avec notre petit avion sur Guadalajara, et on déambulait dans les rues de Guadalajara avant d'aller au match, et on a rencontré que des Brésiliens. Il a aussi relevé la blessure de Michel, qui était véritablement très très handicapé au cours de cette compétition, et on avait affaire à des joueurs magnifiques. Et je voudrais saluer celui qui est le joueur sans doute le plus sous-coté dans le football français, et qui avait fait une Coupe du Monde absolument exceptionnelle, extraordinaire, qui était Maxime Bossis. Il avait fait une Coupe du Monde d'une qualité incroyable en tant que défenseur. Pas une faute, des relances, des interceptions. Un joueur absolument exceptionnel.
Tiens, j'ai un message sur WhatsApp, Jérôme, qui me dit: j'avais 8 ans, j'étais en classe scolaire chez une correspondante d'école. Mon correspondant ne pouvait pas me recevoir dans sa maison, du coup j'ai été accueilli chez la directrice. Elle me savait passionné de foot, elle m'a permis de regarder ce match alors que personne n'aimait le foot. J'ai mangé devant la télé en regardant ce match mémorable. Quand tu as 8 ans et tellement passionné. Non mais vous voyez, c'est incroyable. C'est un match, c'est le genre de moment où on se souvient où on était. Donc c'est important de transmettre ça. Jean-Michel, on se posait la question, est-ce que c'est un match qui peut changer, est-ce qu'un match parfois peut changer la destinée d'une équipe et d'une nation? Et c'est vrai que ce qui est marquant dans ton commentaire, c'est qu'on a l'impression que tu le sens tout de suite dans ton commentaire, que tu dis c'est un drame pour les Brésiliens, pour une fois on peut se lever nous et pas eux. C'est-à-dire que tu sens que c'est un match bascule peut-être dans l'histoire des Bleus.
Non, mais c'est un match exceptionnel. Pour quelle raison? Parce que en 82, il y a déjà une demi-finale contre l'Allemagne. Et c'est l'éclosion d'une exceptionnelle génération. Et on venait des fins fonds du football. Hein. Moi, j'étais en équipe de France. On gagnait un match comme ça quand on jouait contre le Luxembourg, le Liechtenstein. Hein, tu vois, c'était compliqué. Et en 84, il y a ce titre. Et d'éliminer le Brésil quasiment sur ses terres, même si le Mexique est l'Amérique centrale, mais quasiment dans... c'était quand même avec Careca qui était un avant-centre exceptionnel, Zico qui était l'héritier de Pelé. Éliminer cette équipe-là, ça faisait que définitivement le football français entrait dans la cour des grands. Incontestablement, ce match-là, alors peu importe à quel niveau il se situe, mais c'était un match à élimination directe. Donc, c'était encore plus beau. Mais en battant le Brésil chez lui, je dis presque chez lui,
bah oui.
L'équipe de France entrait dans le... Et puis, c'était aussi une sorte d'adieu, parce que c'était la génération de Gigi, de Michel, de Dominique Rocheteau. C'était un peu la fin de Maxime, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on avait envie que ces joueurs-là sortent par la grande porte, et ils étaient sortis par la grande porte.
Non, mais ce match, c'est une des jocondes du sport français, hein, un des chefs-d'œuvre. Jérôme, tu te souviens de ce match, toi?
Moi, je me souviens de ce match, j'avais 6 ans, mais c'est mes premières images de Coupe du Monde, en fait. C'est celle-là dont tu te rappelles. Je te le disais hier quand on a préparé l'émission. Le premier souvenir que j'ai, avant même ce fameux match, c'est cette ombre au-dessus du stade. Je me suis toujours demandé comment ils arrivent à faire cette ombre au-dessus du stade, ce monde. Et ce match-là, j'étais avec mon père et mes amis dans l'appartement, parce que je vivais en caserne, mon père étant de métier douanier, on vivait en caserne. Et je me rappelle très bien de cette journée-là. C'était fou, il y avait du monde à la maison, il faisait aussi très très beau, et c'était un match, c'est les premières images de la France qui gagne pour moi. Après, comme tu dis, moi c'est toujours lié à ce match d'après, avec le fameux match contre l'Allemagne, où j'ai vu pour la première fois qu'une porte d'un appartement n'était pas si solide, parce que lorsque l'arbitre n'a pas sanctionné Schumacher, j'ai le pote de mon père qui a mis un sacré coup de poing dans la porte s'est couchée.
Ça, c'est en 82, ça. C'est
82. J'avais aussi ce souvenir-là de ces premiers moments tout gamin. C'est aussi de voir le football depuis la télé et ce petit droit de le voir. Moi, j'avais juste envie qu'il y ait du foot pour pouvoir regarder la télé, parce que sinon, j'avais pas le droit de la regarder. Et pour revenir sur ce que disait Jean-Michel, Maxime Bossis, on peut continuer à le voir aujourd'hui. Il habite dans la même commune que moi. C'est d'une humilité. C'est quelqu'un qui, enfin, tu le croises, tu dis aux gens, mais ce monsieur-là, il a joué la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Il a été l'un des meilleurs joueurs en équipe de France, et surtout sur cette compète. Ouais. Il ne parle plus jamais de football. Moi, j'ai croisé, j'ai essayé de le faire. Il veut pas en parler, il en parle pas.
Déjà, il parlait pas du tout, Maxime. De football ou du reste, il parlait jamais, Maxime.
Mais c'est
il disait bonjour et tu disais le reste. Alors,
Tiens, sur WhatsApp, des messages. Vincent me dit, j'étais avec des scouts de France. Je me rappelle devant une télé en noir et blanc. Tout le monde était pour la France, sauf un mec qui était fan d'Ayrton Senna dans l'équipe de Pont. Jean-Michel, qui n'est pas Jean-Michel Larquet, me dit sur WhatsApp, ce France-Brésil a adouci ses vies 82. Je pense que ça,
bien sûr,
ça,
bien sûr,
ça joue,
bien sûr.
Aussi. Sarah, ça t'évoque quoi, toi? Je t'ai attaché à l'histoire du sport. T'étais devant cette
année sur France-Brésil? Non, j'avais 11 ans et c'est vrai que j'ai pas de souvenir de ce match-là. J'ai un vague souvenir du match contre l'Allemagne, du match d'après, parce que j'avais une correspondante allemande et qu'on s'était retrouvés toutes les deux à regarder le match, mais j'ai pas de souvenir de ça.
Mais vous voyez, en fait, c'est ça qui est fascinant, et c'est ça qui doit nous rappeler à chaque fois aussi l'importance du sport et même des Coupes du Monde qu'on parfois en critique et tout ça. C'est des marqueurs temporels, c'est des marqueurs de moments qu'on a vécu, bons ou moins bons, et qu'il est important de transmettre aussi, parce que c'est aussi une histoire de la France, hein, finalement, ces moments-là. Tiens, oui. Jérôme au 32-16, Jérôme qui a vu le match dans le bureau de la directrice directrice de l'école, je crois, qui était avec nous. Ils appellent de Bretagne. Salut Jérôme.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour.
Bon, salut, tu as 47 ans, hein, je précise, justement, pour qu'on sache aussi la génération. Juste, à quel point ce match, il t'a marqué, toi? À quel point ce match, c'est un avant et un après sur ce que représente l'équipe de France?
Bah pour moi, déjà, le Mondial 86, c'est tout le début de mes souvenirs de foot, quoi. C'est ce que, bah, ça, les bicyclettes de Negrete, le Mexicain, Gary Lineker, qui a été mon idole absolu. Et puis, bah, ce match, il est resté gravé dans ma mémoire, de par le suspense, les circonstances dans lesquelles je l'ai regardé. Donc, c'est vraiment le tout début des souvenirs pour moi, pour le foot, quoi.
Ouais, c'est le Mondial de Maradona aussi, hein, le Mondial 86.
Oui, bah, donc, les supporters de Gary Lineker, oui, ça a été très bien.
Ah oui, l'Argentine d'Angleterre, la main de Dieu. Non, mais tu vois, Jérôme, regarde, j'ai un message de Jeff qui me dit, mais comment vous faites pour vous rappeler d'un match à 6 ans? Vous avez une sacrée mémoire. Moi, je peux vous dire, non, mais pour l'importance du foot, moi, j'avais 6 ans sur la Coupe du Monde 94. Je me rappelle de Baggio qui tire au-dessus des yeux de Maradona. On se rappelle pourquoi sur cette Coupe du Monde après un but. Mais c'est aussi des images, des couleurs. Comme tu dis, tu parlais tout à l'heure.
Flash,
des couleurs, le soleil. Le soleil aux États-Unis, ou de l'autre côté de la planète, ou au Mexique, justement, pour ce match-là. Jean-Michel, toi, sur les matchs que tu as commentés, tu as commenté plein de matchs, hein, le France 98, évidemment, aussi. Quelle place il a, celui-là, justement, ce France-Brésil de Guadalajara?
Et comme dirait Louis, il est obligatoirement sur le podium. Alors, je ne sais pas si c'est sur la cinquième marche ou la quatrième marche, comme dirait Louis, mais...
On t'embrasse, Louis.
On revient à Louis. Je t'embrasse, mon petit Louis. Mais il fait partie des grands moments, comme la finale de 98, comme la France-Brésil de 2006, par exemple. Voilà, il y a des matchs qui m'ont marqué, et je ne suis pas simplement un commentateur ou un consultant quand je regarde les matchs, je suis aussi un spectateur vivant. Et à ce sujet-là, voilà, je voudrais rendre hommage, parce que c'est toujours avec beaucoup d'émotion que j'entends les commentaires de Thierry, qui faisait vivre le match comme personne. Voilà, quand j'entends mon petit bonhomme, voilà, j'ai encore des frissons. Voilà, j'ai eu la chance de commenter pendant près de 30 ans avec Thierry. C'était absolument fabuleux.
Et pourquoi, pourquoi c'était son petit bonhomme, Luis Fernandez? Pourquoi c'était votre petit bonhomme? Pourquoi c'était le petit bonhomme de la France quand il va à 26 ans aller tirer ce tir au but pour aller battre le Brésil?
Tout simplement parce que Thierry connaissait la jeunesse de Louis. Moi, je l'avais eu comme joueur au Paris Saint-Germain. Je ne pouvais pas le faire jouer parce que c'était l'époque des deux étrangers extra-communautaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça.
Ouais.
Donc, il était orphelin de papa très jeune. Il avait vécu dans des conditions très difficiles. Quand on parlait avec Louis, il nous parlait toujours de sa maman, de Tarifa, des difficultés qu'il avait, de sa bande de copains. Quand je dis bande, c'était une vraie bande du côté des Minguettes. Donc Thierry avait une tendresse particulière pour lui. C'est lui, c'est peu importe sa taille, pour lui c'était son petit bonhomme, c'était son petit copain, son petit enfant. Voilà, et il y avait une forme une forme sentimentale que voulait faire passer Thierry. Mais c'était, on le sent quand même. On sent qu'il y a quand même beaucoup de sincérité dans ce que dit Thierry.
Ah ben c'est pour ça, tu sais, Jean-Michel. Ah oui. Moi je l'ai pas vécu en direct. Jérôme était tout jeune. Mais quand on réécoute ce direct, ce commentaire, moi j'avais la chair de poule. J'avais la chair de poule en pensant.
Les voix,
l'émotion qui est transmise.
Les voix de Jean-Michel et de Thierry ont bercé toute notre jeunesse. Enfin, moi j'ai eu la chance de croiser Jean-Michel sur un événement à Brest, invité par Denis Le Saint. Quand j'ai entendu parler Jean-Michel, c'est waouh, ah oui, c'est le monsieur qui commentait les matchs quand j'étais branleur.
Ben oui.
Non mais c'est ça.
Ben oui, c'est le monsieur là j'en prends un petit coup d'oreille les oreilles.
C'est un grand respect.
Vous êtes les compteurs de moments tellement importants de notre vie à tous.
Tu sais, à l'époque,
si on a pu apporter un petit peu de bonheur aux gens, mon Dieu, au moins on aura servi à quelque chose.
l'époque aujourd'hui est différente, il y a multi-diffuseurs, mais je pense qu'à l'époque, on regardait aussi les matchs pour entendre Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. C'était, ça faisait partie du match et du folklore autour du match.
Bon, on n'en fait pas trop non plus.
Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
Parce que j'ai pas mis mes chaussures et je vais avoir du mal. J'ai les chevilles qui rentrent.
Et d'ailleurs, on souhaite un bon anniversaire à Michel Platini qui fête ses 71 ans aujourd'hui.
Et qui regarde le rugby maintenant.
Et qui a le rugby maintenant. Exactement. Et Luis Fernandez était en route vers Cassis justement pour fêter l'anniversaire de Michel. Et je pense qu'il va y avoir quelques joueurs de la bande de 86. Jean-Michel, merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est tellement important qu'on puisse transmettre aussi ces histoires. Et je te cache pas que moi, ça me fait toujours un truc de t'entendre le dimanche matin sur RMC. Ça me rappelle mes jeunes années sur Arkay Foot où je me disais il va y avoir Guillaume Trois, l'entraîneur de Nice, aujourd'hui, à invité. Et il était là. Et du coup, on écoutait avec mon père.
Voilà, monsieur Larquet, vous savez bien.
Voilà, exactement. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Michel. Évidemment, encore en tout sur cette Coupe du Monde, RMC Radio officielle de la compétition. C'est important de se rappeler les grands moments du mondial. Ah, on s'est fait. Ça fait du bien. Les moments comme ça. Allez, on revient dans un instant. On va faire le j'y crois pas sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport vous ont proposé une madeleine de Proust au petit déjeuner là, en revenant sur France-Brésil à 86, évidemment à Guadalajara, c'était il y a 40 ans jour pour jour. J'ai plein de messages franchement sur WhatsApp comme rarement, hein, de témoignages au 06 12 424 424. Jérôme qui me dit j'avais 12 ans ce soir-là, mes parents avaient des invités pour dîner. Pendant l'apéro, l'un d'eux a dit on mettrait pas un peu le match? J'étais fou de joie. Finalement, on a dîné après le match. Mon père, qui n'aimait pas le foot, a fini la séance de tir au but sur le balcon tellement il était stressé. Souvenir merveilleux. Et merci à cet ami grâce à qui j'ai pu voir ce match magnifique. Jeff me dit super d'entendre la voix de Thierry Roland, évidemment. Émouvant d'entendre Jean-Michel. Christophe qui nous dit France-Brésil 86. Un samedi, le jour de mariage de mon ami Robert. Au moment des pénaltys, tout le monde était dans les voitures à écouter les autoradios. Il restait la mariée et le marié à table seul. Et Robert qui n'osait pas rejoindre ses potes dans les voitures. Voilà, c'est ça le football, c'est ça le sport, c'est ça les grands moments qu'on partage tous ensemble et derrière qui nous unissent et dont on se rappelle. C'est pas juste un ballon qui roule ou un mec qui pédale pendant des kilomètres et des kilomètres. Ce sont des moments qui nous unissent. Allez, le j'y crois pas tout de suite.
RMC, les grandes gueules du sport. J'y crois pas.
Allez, on va revenir à 2026, à la Coupe du Monde. L'Espagne joue son deuxième match, je vous le disais aujourd'hui, face à l'Arabie Saoudite, à 18h. Alors, a priori, Lamine Yamal pourrait être titulaire, mais il dit qu'il n'a pas encore la possibilité de faire un match physiquement en intégralité. J'y crois pas, les amis. L'état physique de Yamal va pourrir le mondial de la Loja. Vous en pensez quoi? J'y crois pas, Sarah.
Bah, je sais pas pourrir, mais je pense que c'est un vrai caillou dans la chaussure. Hein.
Pascal?
Surtout s'il arrive.
Conditionné, oui, mais donc pourrir peut-être.
Jérôme?
Oui.
Alors je vous rappelle qu'il se remet d'une blessure à la cuisse. Hein. Il a 18 ans, il est entré en lice 20 minutes sur le match face au Cap-Vert. Il a dit ceci il y a quelques jours. C'est très tôt, inutile pour l'instant de jouer un match en intégralité. Je suis en pleine période d'adaptation. Ce n'est pas possible de disputer un match en entier. Et je peux jouer les minutes, mais je jouerai les minutes que le coach voudra. Pascal, on se souvient. Il y en a eu des histoires de stars qui n'arrivent pas à rentrer dans la Coupe du Monde. Ça nous fait penser à Zidane en 2002, par exemple. Ça, ouais, c'est pas neutre, ça, dans un groupe.
Ah oui, on en parlait tout à l'heure. C'est aussi Platini qui arrive diminué au Mexique. Ça nous a peut-être coûté, en demi-finale, de battre les Allemands. Qui sait s'il avait été en pleine possession de ses moyens. Donc là, pour Yamal, ça fait quand même depuis le 22 avril qu'il s'est blessé en frappant un pénalty. Donc, il a rejoué certes une partie du premier match de poule, mais c'est quand même un joueur qui transforme l'équipe d'Espagne. Tant il a du talent. C'est comme si Mbappé revenait de blessure.
Et ça occupe l'atmosphère, ça occupe
les questions, c'est le point central des discussions. Et en plus de ça, je pense que les médias espagnols doivent être sur ce sujet toutes les 5 minutes.
5 questions à Luis de la Fuente, le sélectionneur, hier là-dessus.
Ouais, je pense que ça plombe aussi l'ambiance d'une équipe, mais enfin
c'est
ischio-jambier, hein, je crois, ouais. Exactement. Enfin, 22 avril, ouais. On est déjà à 2 mois, quoi. Enfin, on est déjà à 2 mois de la blessure. Ça paraît quand même bizarre que.
Il a été beaucoup blessé cette saison, hein, Yamal.
Oui, mais il n'y a pas de.
Alors, peut-être un physique un peu fragile qu'on découvre aussi.
Un physique un peu fragile,
Yamal,
hein. Une jeunesse qui fait.
Là, tu vas jouer dans des conditions en plus aux États-Unis. Il fait
une jeunesse
chaud,
qui fait que on est insouciant et on se rend compte plus tard que prendre soin de son corps et de faire les choses bien, c'est important. Et quand tu es à très haut niveau, très vite, il faut le faire. Et puis surtout, c'est une blessure qui Pascal, tu peux confirmer, c'est, tu y vas à tâtons, quoi. Tu reprends, mais
ouais,
tu dis, bah, ah, il faut pas que ça tire de trop.
C'est
voilà, c'est ça. Et ce joueur-là, s'il n'est pas à 100% complètement relâché, c'est-à-dire capable de fulgurance, crochet et d'aller très vite, eh ben, c'est plus le même. Et on regarde quand il est rentré face au Cap-Vert, normalement en pleine possession de ses moyens, même en jouant 20 minutes, s'il est en pleine possession,
il doit marquer.
Il arrive à plier le match. Là, il a joué timidement. Je trouve qu'il a joué timidement ces 20 minutes.
Comme tous les sports de haut niveau, c'est une question de rythme. Et là, il a perdu le rythme parce que ça fait depuis le 22 avril qu'il ne joue pas à la fin du championnat et les matchs de préparation de l'Espagne. Donc, il faut être dans le rythme et ça va peut-être prendre du temps et le rythme peut-être qui va pas l'avoir sur tout le mondial.
Espagne-Arabie Saoudite à 18h, pardon Pascal, évidemment à suivre sur RMC. Juste, j'y crois pas rapidement, on a une semaine de Wimbledon. Est-ce que Arthur Fils va participer, Sarah?
Eh ben là, c'est une bonne question.
Je
suis inquiète. En tout cas, c'est pas parce qu'on le voit jouer sur gazon en ce moment que ça assure sa participation. Vu ce qu'il nous a fait à Roland-Garros, je pense qu'il est vraiment en période uniquement de test. Hein.
Ouais, Jérôme, tu crois pas?
Non, bah non, je crois plus. Hein. Pascal?
J'y crois pas, mais j'espère.
J'espère, évidemment. Non, mais c'est vrai que voilà, on l'a vu avec son prépa physique, s'entraîner sur gazon. Mais il n'a pas joué un match, hein, pour le coup. C'est quoi, oui. Ça vous rappelle un peu Roland Garros, là, où on savait pas trop où il en était.
Roland Garros, il avait quand même des matchs et plutôt des très bons résultats sur terre battue. Et on disait, vous inquiétez pas, il joue pas. C'est pas parce qu'il joue pas qu'il jouera pas Roland Garros. Donc,
on peut arriver à Wimbledon sans avoir joué un match sur terre battue, sur gazon.
Sur gazon. Oui, on peut, mais franchement, c'est loin d'être. C'est loin d'être évident sur cette surface, quoi.
Et puis la roue tourne, quoi. Le temps passe sans jouer. Il est non seulement tu dis avant d'être blessé, il sort d'une très très bonne série sur terre, mais là il joue plus. Donc évidemment il perd le fameux rythme parce que c'est dans tous les sports pareil. Le jeu, enfin, à force d'être l'espoir d'eux, mais dès qu'il s'arrête, dès qu'il est blessé, quand Arthur Fils est blessé. Je suis désolé, mais c'est comme la malle, quoi. Ça dure pas 5 minutes, c'est très très long à chaque fois.
Ouais, effectivement. Et on lui souhaite évidemment de récupérer le plus rapidement possible. On adorerait le voir sur le gazon de Wimbledon dans une semaine. On en parlera évidemment dans les grandes gueules du sport. Allez, les amis, dans un instant, on revient avec le vestiaire. On va parler de comment gérer la canicule, la chaleur quand on est sportif de haut niveau. J'ai l'impression qu'on va en parler dans le flash dans un instant. Et puis on va parler de Raphaël Nadal qui inspire Lionel Messi. Mais c'est vraiment un bon exemple pour les jeunes sportifs. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.